Merci Sylviane, merci Jacques pour ce moment de louange et qui a glorifié Jésus. Et dans le culte, nous voyons Jésus de plusieurs manières, hein, bien sûr dans les frères et sœurs et dans la liturgie, hein, de l'adoration. Et maintenant nous allons voir Jésus dans sa parole. Et donc j'invite Anatole à venir et je vais prier avec lui pour ce moment de la parole où nous allons voir aussi la réalité de Jésus. Et donc Seigneur, merci pour mon frère Anatole et je te demande vraiment de le bénir maintenant et d'utiliser sa bouche et son cœur et ses paroles pour nous parler ce matin. Et donc je remets ces moments maintenant entre tes mains au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je remercie Rob qui me donne l'opportunité d'être avec vous et de communier ensemble. J'ai cru comprendre que nous devons finir le culte au plus tard à midi, donc j'ai entre 40-45 minutes. Je vais faire un effort pour respecter, parce que vous savez, chez nous en Afrique, on a le temps. Vous avez la montre, mais nous on a le temps. Et le soleil en Afrique tourne moins lentement que le soleil en... Donc je vais voir si je peux garder les 40 minutes, mais je ne promets pas qu'une minute sera 60 secondes. Mais je n'ai pas le choix parce que si je ne veux pas rater mon bus, il faut que je finisse à temps et que je parte. Et donc, merci Seigneur. J'ai appris certaines leçons pendant cette année déjà. Je me suis posé la question pourquoi l'apôtre Paul, quand il écrit la plupart de ses lettres, il y a toujours des salutations qu'il envoie et vous retrouvez cette expression que la grâce et la paix. Je dis, pourquoi est-ce qu'il aime utiliser cette expression? Et c'est vrai, vous serez d'accord avec moi, que sans la grâce de Dieu, nous ne sommes rien. Nous ne pouvons rien. Tout est grâce. Il ne s'agit pas seulement de dire, mais de se rendre compte et de vivre cela, que tout est grâce. Sans cette grâce, je ne suis rien. Je ne peux rien. Moi, c'est ce que j'ai vécu pendant... ces plusieurs années de service avec le Seigneur et la paix. Vous savez, bon, on dit que la guerre est revenue en Europe et peut-être que c'est un peu inquiétant, mais nous en Afrique, on connaît la guerre, surtout en Centrafrique, donc c'est difficile et vous comprenez pourquoi la paix aussi est importante, parce que sans la paix, on ne peut pas vivre. Et je me dis, merci Seigneur d'avoir donné cette forme de salutation à l'apôtre Paul qui sied à notre contexte. Et la deuxième chose que j'ai apprise avec le Seigneur pendant cette année 2023, c'est de revoir l'enseignement sur le tabernacle. Parce que la Bible dit que c'est l'ombre des choses à venir. Et il y a une question que l'apôtre Paul, rien que dans l'épître aux Corinthiens, il a soulever cette question aux chrétiens de Corinthe et vous retrouvez la question. Ne savez-vous pas? Je ne sais pas si vous avez lu cela, je suis sûr. Et quand il soulève cette question, ne savez-vous pas, ce qui suit, c'est en rapport avec le temple de Dieu, avec le temple du Saint-Esprit. Vous retrouvez cela dans 1 Corinthiens 3, 16. Vous retrouvez cette même question dans 1 Corinthiens 6, le verset 15, 16, 19. Ne savez-vous pas? Est-ce que vous ignorez? Est-ce que vous vous rendez compte? C'est vrai, nous savons que l'église de Corinthe, qui était une église très spirituellement bénie, c'était aussi une église à problème. Chaque chapitre, surtout la première épître aux Corinthiens, c'est comme si Paul est en train de résoudre un problème. Et ça, c'est un peu aussi le contraste entre une église qui navigue par la puissance du Saint-Esprit et qu'il y ait tellement de problèmes. Est-ce que nous sommes différents des Corinthiens aujourd'hui? Je ne sais pas. Et la leçon que j'ai tirée, je n'aurai pas le temps de vraiment rentrer en détail sur ce qui concerne le temple, qui n'est rien d'autre que le tabernacle agrandi, mais stable, parce que le tabernacle était portatif à l'époque de Moïse, et quand David a décidé de la construction du temple et que son fils Salomon a réalisé la chef d'œuvre, quand vous voyez tous les éléments, c'est presque la même chose, mais seulement que le temple était un peu plus grand et qu'on ne pouvait pas déplacer. Mais il y avait des choses qui se sont répétées, que ce soit lorsque la construction du tabernacle était finie, que Dieu demandait à Moïse de dresser, la Bible dit que la nuée était descendue. Vous retrouvez cela dans Exode 40 et les versets 31 qu'on a là. Vous voyez, la présence de Dieu est venue dans ce tabernacle. Et quand vous lisez 1 Roi 8, à partir du verset 10, c'est la même chose avec le temple. Quand on devait dédicacer le temple, la présence de Dieu est descendue. Dieu voulait vraiment habiter parmi les hommes. Et lorsque l'apôtre Paul soulève cette question, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit? Et il dit, mais c'est vrai, est-ce que nous savons cela? Que Dieu veut vraiment habiter en nous. Est-ce que nous sommes toujours conscients de cela? Et je veux demander au Seigneur de m'aider ce matin, de toucher juste quelques paroles sur ça. Parce que lorsque vous prenez le temple, chaque élément a son importance. Et je n'aurai pas le temps de parler de tous les éléments. Dans l'Ancien Testament, c'était 8 éléments, mais dans le Nouveau Testament, ça reste 7 parce que le voile a déjà été déchiré, donc on ne parle pas du voile. Vous avez la porte, vous avez l'autel des holocaustes, vous avez la cuve d'airain qui se trouve dans la cour extérieure, et quand vous rentrez dans le lieu saint, vous avez le chandelier et la table des pains de proposition. Et moi, ce qui m'intéresse ce matin, c'est la table des pains de proposition. Ça veut dire quoi? Je ne rentre pas dans le Saint des Saints. Même si je saute un élément, la table de parfum, et puis dans le Saint des Saints, c'est large. Mais puisque la Bible dit que ces choses sont l'ombre des choses à venir, qu'est-ce que nous pouvons apprendre? Pourquoi la Bible dit que nous sommes le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit? Pourquoi? Que ce soit en tant que communauté ou en tant qu'individu. Est-ce que nous sommes toujours conscients? Est-ce que c'est vrai, Dieu veut habiter en moi? Mais si Dieu habite en nous, il y a une différence. Il y a une différence si Dieu est en moi. Les gens verront autre chose. Moi-même, je ferai autre chose. Et donc, ma prière ce matin, c'est que dans mon langage qui peut être bancal et mes expressions qui peuvent être incompréhensibles, que le Saint-Esprit vous aide, au-delà de mes limites, à vous communiquer ce qu'il veut vraiment que vous saisissez pour votre vie. Telle est ma prière. Dans les années 1940, il y avait un train à deux têtes qui voyageait en Espagne. Et ce train devait traverser un tunnel à Léon. Et quand le train était au milieu du tunnel, le moteur s'était arrêté. Et puisque c'était un train à deux têtes, ça veut dire qu'il y avait un conducteur devant et un autre conducteur derrière. Et le conducteur qui était derrière, voyant que le train s'était arrêté et ne voulant pas que les gens soient asphyxiés dans ce tunnel, il a mis en marche son moteur pour ramener le train. Mais entre-temps, le conducteur de devant avait réussi à redémarrer le train. Ils ne communiquaient pas entre eux. Celui de derrière était en train d'accélérer, celui de devant était en train d'accélérer. Et l'autre pensait qu'il fallait que je mette plus de puissance pour faire marcher le train. Et il y avait un antagonisme, les forces étaient antagoniques. Le train ne pouvait plus avancer. Le carbone de dioxyde a asphyxié les passagers et c'était des centaines et des centaines de personnes qui étaient mortes. Pourquoi? Parce qu'il y avait deux têtes qui n'allaient pas dans le même sens. Chacun voulait aller de l'avant et l'autre voulait aller de l'arrière. Et quand je vois cette histoire, je dis, est-ce que ça ne ressemble pas à notre vie? Nous nous disons, enfants de Dieu chrétiens, Mais quand il s'agit d'un certain nombre de choses, est-ce que vraiment c'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit ou c'est nous-mêmes qui voulons nous conduire? Et ce tiraillement s'aboutit à quoi? Malheureusement, la vie est faite d'une succession de choix. Et vous savez que chaque choix a des conséquences. Chaque jour, vous prenez des décisions. Tout au long de votre vie, vous choisissez des choses. Et ces choix ont des conséquences. Mais si nous ne sommes pas avec le Seigneur, quelles sont les conséquences? Et en parlant de la table de proposition qui est dans le dessin, je vois en cela l'autel du brisement. Il y a deux formes de brisement. Il y a des brisements qui peuvent être extérieurs où c'est Dieu qui nous impose une discipline parce qu'il veut casser des choses en nous. Mais il y a une autre forme de brisement où nous devons le faire volontairement. Et c'est là où le bât blesse. Nous voulons bien ressembler à Jésus, nous voulons glorifier Dieu, l'honorer et le ressembler dans tout ce que nous faisons. Et on nous dit, il faut beaucoup prier, il faut beaucoup lire la parole de Dieu, il faut beaucoup méditer. Il y a tellement de choses qu'on nous dit de faire et parfois, ça ne marche pas. Et on peut être frustré et on se pose la question, mais pourquoi ça ne marche pas? Parce que malheureusement, l'éducation que nous avons reçue, c'est en quelque sorte scolastique, les gens nous enseignent ce que nous devons faire. On ne nous enseigne pas, va vers Dieu et qu'il te dit ce que tu as à faire. Et en suivant l'école des hommes, qui n'est pas toujours mauvais. Mais parfois, c'est un peu comme l'accoutrement que Saül voulait imposer à David. Et s'il partait avec cela, Goliath l'aurait tué. Parce qu'il n'est pas habitué à ça. Alors, cette table de pain de proposition que je dis, c'est l'autel de brisement. Parce que nous sommes des êtres humains et pour être un être humain, on dit qu'il faudrait avoir la volonté, les émotions et la pensée. Ça le coupe un peu dans ces choses-là. Comment est-ce que nous pouvons accepter d'être brisés dans tout ce qui constitue notre personnalité pour que nous ne soyons pas comme ce train à deux têtes? Toujours être tiraillé dans notre vie, dans les décisions que nous avons à prendre. Il y a un jeune, c'est pas un jeune couple, mais un couple que j'ai suivi et qui sont maintenant au Congo-Brazza, c'est mes enfants. Et l'homme même, c'est un serviteur de Dieu, mais depuis quelques années, il ne s'entend pas avec sa femme. Elle n'a pas été infidèle, mais simplement, c'est un problème de caractère. La femme est restée à Brazza avec les enfants et lui, il est parti à Pointe-Noire. Et il est campé sur sa position. Il ne veut pas se réconcilier, il veut le divorce. Je lui ai posé la question, mais comment tu peux justifier? Et ça fait plus de 4 ans aujourd'hui. Mais il souffre. Il dit qu'il n'est pas content de vivre cette vie. Il veut être avec ses enfants. Mais il a une position qui n'est pas flexible. Et pourtant, il est serviteur de Dieu. Mais ils sont en train de vivre cela. Il est en train de souffrir. Simplement parce qu'il veut que sa volonté se fasse. Et vous savez, comme je le disais tout à l'heure, la vie est faite de choix successifs. Et lorsque nous choisissons mal, nous souffrons. Il y a des gens qui souffrent à cause de mauvais choix. Il y a des gens même qui sont chrétiens des années, peut-être même parfois qui servent Dieu, mais qui souffrent les conséquences des mauvais choix. Alors quelles sont les choses que nous pouvons apporter sur cette table de brisement? Cet autel de brisement plutôt, cette table de pain de proposition. C'est l'élément, comme je l'ai dit, sur lequel je vais vraiment m'apesantir ce matin. La première des choses que nous avons besoin qui doit être brisée, c'est notre volonté. Lisons dans Matthieu, le chapitre 26 et le verset 39. Ce verset parle de Jésus. Quand il priait dans le Gethsémané, avant d'être arrêté, pour être jugé, être crucifié, quelle est la prière qu'il faisait monter à Dieu? Matthieu 26, 39. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Ma volonté, Père, c'est de ne pas boire cette coupe. Éloigne. Éloigne-la de moi. Mais tu sais, Seigneur, je ne veux pas faire ma volonté. Je veux faire ta volonté. Même si elle est amère, même si elle est dure à accepter, à boire, je veux me soumettre, je veux faire. Et tant que notre volonté n'est pas brisée, il nous sera très difficile d'honorer Dieu. Il nous sera très difficile de vivre cette vie que Dieu veut. Il nous sera très difficile d'être un habitacle de Dieu. Qu'il vienne en nous, parce que nous ouvrons notre volonté. Nous ne faisons pas sa volonté. Nous serons en train de lui imposer ce que nous voulons, ce que nous désirons. Et même si la douce voix du Saint-Esprit nous interpelle, mais nous allons nous fermer à cela parce que nous voulons notre volonté. Nous sommes dans une société où il faut montrer qu'on est audacieux, qu'on est homme, qu'on n'est pas influencé. Et donc parfois c'est difficile d'accepter et de se soumettre à la volonté de Dieu. Parce que qu'est-ce que les gens vont dire, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Il faut montrer que je suis aussi coriace. Et c'est difficile de trouver des gens qui acceptent que leur volonté soit brisée, qu'on leur marche sur les pieds, qu'on leur crache au visage. C'est très rare dans notre société aujourd'hui de trouver ce genre de personnes. Mais c'est quoi la volonté de Dieu dans ce que tu endures, dans ce que tu traverses, dans ce que tu vis? Est-ce que tu as prié pour sa volonté ou tu veux faire ta volonté? Fais ce que tu veux, mais il y aura toujours les conséquences. Et Jésus a prié, Père, je voudrais bien que cette coupe s'éloigne de moi. Je voudrais bien ne pas la boire. Je voudrais bien ne pas aller à la croix. Mais pas ce que je veux. Combien de fois tu as fait ce genre de prière devant des situations qui sont peut-être difficiles où tu avais cette alternative de faire ce que Dieu veut ou d'imposer ta volonté, où tu avais un choix. Tu as préféré faire quel choix? Celui de Dieu ou celui du bon sens, de la sagesse séculière? Et je crois que nous sommes toujours promptes à utiliser notre bon sens, notre sagesse, n'est-ce pas? Parce que Dieu nous a mis une tête sur nos épaules pour réfléchir. Et voilà, nous avons beaucoup appris, nous avons beaucoup d'expérience. Et parfois même, nous pensons comprendre mieux et savoir mieux que Jésus. Mais qu'en est-il de faire cette prière de Jésus? Pas ma volonté. Même si dans cette affaire, je devais avoir raison, mais Seigneur, pas ma volonté. Si c'est ce que tu veux pour moi, si c'est ce que tu as tracé pour moi, pas ma volonté. Les derniers temps sont difficiles, c'est des temps de défis. Et la foi va prendre des coups. La spiritualité ne sera pas aussi évidente. Mais comment est-ce que je vais me comporter? Je fais comme les autres? Ou je suis toujours à l'écoute de Dieu pour faire ce qu'il plaît? Même si ça ne m'arrange pas. Je vis et je sers Dieu comme missionnaire au Burkina Faso. Déjà, le contexte environnemental ne me plaît pas. Il fait très chaud alors que je suis le mauvais Africain qui ne supporte pas la chaleur. Ça a été comme ça, toujours. Et donc, il fait très chaud, parfois 45 degrés. Mais il faut aussi aimer les musulmans parce que c'est des créatures de Dieu, même si on les rejette. Et donc, je n'ai pas choisi. Dieu me l'a imposé et je ne suis pas prêt de partir. Si Dieu ne me dit pas de partir, je dis, même si c'est pour mourir là, je vais mourir là. Mais il y a tellement de choses. Et on est dans une société qui est xénophobe. Ne croyez pas seulement que la xénophobie, c'est en Europe, hein, que c'est seulement entre les blancs et les noirs. Mais les Burkinabés sont tellement chauvins que quand on est étranger, on ressent cela. Et ce n'est pas seulement dans la société, même dans le milieu ecclésiastique. J'ai un garçon qui rêvait toujours d'être producteur-réalisateur en cinéma. Et nous, on ne savait pas qu'il fuyait, qu'il quittait, qu'il allait se cacher même à l'université pour prendre des cours, alors qu'il n'était pas inscrit. Parce qu'il aimait cela. Et plus tard, quand sa maman a partagé son rêve avec moi, on l'a inscrit dans l'institut supérieur pour qu'il fasse ses études d'ingénieur en cinématographie. Mais comme j'ai dit, nous sommes dans une société où ce n'est pas évident. Il y a une année, il a même reçu un prix. Et l'année suivante, on dit, on te chasse de l'école parce que tu n'as pas eu la bonne note. Quand il avait reçu le prix, ses professeurs sont approchés de lui pour demander à ce qu'il leur donne son scénario. Et il a refusé. Parce qu'il sait qu'ils vont se faire de l'argent sur son dos. Et quand il a refusé de leur donner ce qu'il avait conçu, c'est ça qui a créé le problème. Et ils ont dit, ok, on te chasse de l'école parce que tu n'as pas la moyenne l'année suivante. Il dit, c'est pas un problème, moi je ne vais pas aller pour me casser la tête. J'envoie l'un des frères qui est là-bas et qui le suit. J'ai dit, va leur demander de te donner son bulletin de notes. Comme ça au moins, on saura dans quelle matière ça n'a pas marché. Jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais eu ce bulletin de notes. Ça veut dire que c'est un abus. Bon, c'est vrai, j'ai suivi un atelier, la pédagogie universitaire, j'ai vu que la manière dont on enseigne dans les universités, ça c'est surtout américain, c'est pas vraiment ce qui se passe en Afrique. Parce que ailleurs, les gens font tout pour que les autres réussissent, mais en Afrique, c'est différent. Et donc, est-ce qu'il fallait porter plainte et réagir à l'effet du budget? Non. Tu as un rêve. Le fait de t'exclure, ça ne va pas enterrer ton rêve. Il y a les formations diplômantes, mais il y a aussi les formations qualifiantes. L'essentiel, c'est que là où tu veux arriver, tu arrives et que tu mets en exergue tout ce que tu as comme compétence, c'est que ton rêve se réalise. Et Dieu a ouvert la porte où nous avons trouvé un grand réalisateur, encore par coup de chance, un centrafricain, quelqu'un qui a reçu beaucoup de prix en cinématographie et qui est en train de l'encadrer. Et qui trouve que vraiment il y a des choses en lui et que plus tard il fera très bonne carrière. Vous voyez, devant ce choix qui était difficile, de voir un enfant qui a un rêve et qui injustement, à cause de son produit, parce qu'il ne veut pas juste céder, a été victime de la part des professeurs, de ses encadreurs. On pouvait faire des boucans. Mais je dis, mais quelle est la volonté de Dieu dans cette affaire? Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous enseigner? Ok, on accepte de subir. Et peut-être que c'est un exemple qui ne vous dit rien, mais peut-être que vous avez vécu des choses, vous avez été confronté à des situations de plus coriaces que ça. Qu'est-ce que vous avez choisi? Alors, la deuxième chose aussi qui doit être brisée sur cet autel, c'est notre pensée. J'ai parlé de la volonté. La deuxième chose, c'est notre pensée. Quand nous lisons dans Romains le chapitre 12 et le verset 2, ce verset où je suis sûr que beaucoup parmi nous connaissent et qui ont peut-être déjà prêché sur cela, c'est l'apôtre qui est en train de parler aux chrétiens de Rome, une église qu'il n'a pas visitée mais qu'il visitera plus tard quand il sera amené comme prisonnier à Rome. Et il dit, le verset 2 dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Le mot utilisé ici, c'est intelligence, mais quand vous lisez en grec, c'est le mot « nous ». Et le mot « nous » veut dire la pensée. Donc, aujourd'hui, dans notre siècle, il y a les influenceurs, il y a les médias, il y a des informations qui peuvent nous bousculer tout au long de la journée. Et je comprends pourquoi la Bible dit que nos pensées soient remplies de bonnes choses dans Philippiens. Qu'est-ce qui doit être l'objet de nos pensées? Et quand notre pensée humaine n'est pas brisée, ce sera difficile justement de faire place à Dieu dans nos vies. Nous pouvons être facilement influencés, comme je l'ai dit, par les opinions, par les avis des autres, parfois aussi contradictoires que ça. Mais je vais suivre quelle pensée? Ma propre pensée, la pensée des hommes ou celle que Dieu va m'inspirer? Mais Dieu ne peut me donner que si je suis d'accord avec lui. Seigneur, pas ma pensée. Seigneur, brise ma pensée. Seigneur, je veux être connecté avec toi. Accorde-moi ta pensée. Révèle-moi ta pensée. Les voix de Dieu ne sont pas toujours les voix des hommes. Esaïe dit que ses pensées sont au-dessus de nous. Pensées, il faut que nous nous élevons vers lui. Mais parfois, nous avons grandi dans des milieux où tout est carré. En 1990, j'écoutais Jacques Chaban-Delmas dire « Les Français disent qu'ils sont cartésiens, mais ils ne croient pas, il n'y a que Descartes qui est cartésien. » Je ne sais pas s'il avait raison. Mais voilà, nous sommes dans une société où tout est logique, tout est rationnel. Il faut être cartésien. Ce qui nous échappe, ce que nous ne pouvons pas contrôler, c'est difficile de croire cela. Et vous savez que ces choses peuvent nous en tenir loin. Et la Bible nous parle d'être renouvelé dans nos pensées. Seigneur, renouvelle mes pensées. Pas ce qui est toujours dit, pas ce qui est toujours suivi. Jésus dit, le vent souffle, c'est comme l'esprit souffle, comme le vent. C'est entraîne-moi. Je ne veux pas être entraîné par les hommes. Et lorsque vous êtes accro aux nouvelles, que vous ne prenez pas avec recul, que vous buvez tout ce que les médias vous disent, sans comprendre que dans les informations qu'on donne, il y a toujours des lignes éditorialistes. Et on ne nous enseigne pas à prendre du recul et à analyser, à croiser les informations pour savoir si c'est toujours vrai. Et nous sommes embarqués. Seigneur, donne-moi cette force. De ne pas être influencé par ce que les hommes veulent. Et vous allez voir que l'influence sera de plus en plus grande au fur et à mesure que nous avançons vers l'éternel. Il faudrait, amène-moi sur cet autel de brisement et brise ma pensée. Je ne veux pas juste être animé par la pensée humaine. C'est quoi ta pensée, Seigneur? Et vous savez, ce genre d'exercice, même quand on voit l'Église, ça ne se fait pas trop. Pourquoi est-ce qu'il y a tellement de divisions, des opinions, des contradictions? Nous connaissons en partie, c'est vrai, dit la Bible, Dieu permet cela, c'est vrai. Mais si les gens, quand ils se réunissaient, ils passaient plus de temps à prier qu'à parler, 95% de ce qu'ils vont recevoir viendrait de Dieu et 5% peut-être de la chair. Mais malheureusement, lorsqu'on se retrouve, on parle plus qu'on ne prie. Et la fraction est inversée. 95% des hommes et 5% de Dieu. Et vous voulez qu'on aille où avec ça? Et l'Église devient de plus en plus charnelle, de plus en plus païenne. Les éléments profanes ont remplacé les éléments sacrés. Et on s'étonne. Et Dieu n'est pas là. Alors que c'est son désir. Et vous comprenez pourquoi l'apôtre Paul n'a cessé de soulever cette question. Ne savez-vous pas? Est-ce que vous ignorez? Est-ce que vous vous rendez compte que c'est Dieu qui veut prendre le contrôle? Que c'est Dieu qui doit être là? Réunissons-nous autour de lui. Mais puisque ce n'est pas l'exercice auquel nous sommes familiers, eh bien, chacun sort ses arguments, chacun veut montrer qu'il le comprend mieux que les autres, ou que sa voix doit porter. Vous savez, pour influencer, il faut être éloquent. Et ça marche. Ça marche pour les hommes, mais ça ne marche pas pour Dieu. Et donc, volontairement, Seigneur, brise ma pensée. Le troisième élément, je vous inviterai, et qui doit aussi aller sur cet autel de brisement, c'est le cœur. Dans Matthieu, le chapitre 15, les versets 18 à 19, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur et c'est ce qui souille l'homme, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille pas l'homme. Le cœur. Et là, c'est vraiment difficile. Parce que personne ne connaît ton cœur, mais toi, tu connais ton cœur. Toi et le Seigneur. Et les autres ne le savent pas. C'est pour ça que la Bible nous dit de garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Quand mon cœur n'est pas brisé, et que ce n'est pas le cœur de Dieu en moi, il y aura trop de dégâts. Regardez cette liste, et je crois que c'est succinct. Ce que Jésus cite ici n'est pas exhaustif. Mais il dit, toutes ces choses viennent du cœur, et ça souille l'homme. Nous voulons être des hommes et des femmes spirituelles, mais quel est l'état de notre cœur? Je suis parfois étonné, sidéré, de voir des propos qui sortent de la bouche des soi-disant enfants de Dieu. Des choses qu'on ne devait pas trouver au milieu des enfants de Dieu. Mais Jésus dit, tout cela vient du cœur. Vous savez, si je casse une bouteille de parfum ici, l'odeur qui va se répandre, ce sera l'odeur du parfum. Et donc, ce qui sort de nous, c'est ce que nous sommes, c'est cette odeur-là qui trahit ce que nous sommes. Parce qu'on peut bien cacher des choses, faire semblant, impressionner les gens. Et c'est comme Dieu disait à Samuel, les hommes sont impressionnés par l'apparence, mais moi, Dieu, je regarde où. Et si ce matin, le Seigneur devait regarder chacun de nos cœurs, ou si on devait faire une projection de chaque cœur ici, qu'est-ce que les gens verraient dedans? Si ce matin, le Seigneur projetait tout ce qui est dans mon cœur, qu'est-ce que les gens verraient? Vous savez, nous n'avons pas affaire aux hommes, nous avons affaire à Dieu. Et on ne doit pas se cacher derrière un masque. Il faut être vrai. Mais nous savons que les luttes individuelles, parfois, ça n'aboutit pas. La chair ne nous mènera nulle part. C'est un brisement cœur. Vous savez, ça, c'est des choses qui nous amènent dans des prières à genoux et en larmes. Si nous voulons vivre ces brisements, comment accepter d'être humilié? Comment accepter d'être trahi, d'être rejeté? Parfois, c'est des blessures qui sont difficiles à cicatriser. Comment accepter cela si le cœur n'est pas brisé? Et Dieu, il veut ce cœur qui n'est pas rempli par des choses qui vont nous souiller. Mais il veut ce cœur qui est son tabernacle. Et son tabernacle. Et nous serons toujours mis à l'épreuve. Et vous savez, parfois, pour connaître un homme, ce n'est pas quand il a toujours le sourire évangélique, élastique. Mais c'est quand il est dans une situation d'irascibilité, quand il est en colère, quand l'adrénaline lui monte au nez, là, comment est-ce qu'il réagit? Comment est-ce qu'il parle? Et c'est là où vous découvrez l'homme. Waouh! Il était comme ça. Mais comment est-ce qu'on peut être la même personne dans des situations de contradiction? Quand on est offensé, on voit toujours en nous autre chose, c'est un autre parfum que nous dégageons. Qu'on soit en colère, qu'on soit en retard. Est-ce que nous sommes de ceux, quand vous arrivez au feu rouge, vous tapez sur le volant, passe vite au vert? Il y a des choses que Dieu veut travailler en nous. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul parle de la piété comme un exercice. Exerçons-nous à cela. Allons volontairement sur cette table, sur cet autel de brisement. Et lorsque nous comprenons que c'est l'école de Dieu, nous allons comprendre que c'est parce que Dieu veut nous utiliser qu'il nous fait passer au travers de ces choses. Vous savez, Dieu n'utilise pas l'homme charnel. Dieu utilise l'homme qui est brisé. Dieu utilise la foi qui est éprouvée, pas juste celle que nous chantons. Et quand il te fait passer au travers de ces brisements, c'est parce qu'il veut t'utiliser. Mais est-ce que tu es d'accord? Pourquoi il y a tellement la chair aujourd'hui, parmi même les serviteurs de Dieu, dans l'église? Parce qu'on n'accepte pas l'école du brisement. Et on s'impose un certain nombre de choses. Et la conséquence, c'est des casses. Mais quelqu'un qui est brisé, il va refléter Jésus dans ses décisions, dans sa vie, dans ses relations. Même quand on le trahit, c'est Jésus. Mais parce qu'il est passé par le brisement. Et la dernière chose, parce que je regarde la montre, qui doit être brisée, c'est notre esprit. Isaïe 57, le verset 15. Et ce passage est très intéressant. Quand on voit ce que Dieu dit, Isaïe 57, 15. Car ainsi parle l'Éternel, le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés. Ranimer les cœurs contrits. Il dit, il est haut et élevé. Il habite. Une demeure qui est éternelle. Mais il est saint. Mais son désir, c'est quoi? C'est de tabernacler en l'homme qui a l'esprit humilié, contrit, brisé. Dieu veut habiter en nous. Ne savez-vous pas que Dieu veut habiter en vous? Et nous voulons bien voir le Seigneur se manifester. Nous voulons bien que le Seigneur nous utilise. Et c'est vrai, sa grâce est là. Il ne cherche pas toujours les hommes parfaits. Mais il dit, je veux habiter avec l'homme contrit. Seigneur, brise mon esprit. Et si nous languissons pour cela, si tel est notre désir, longueur de journée. Seigneur, je veux que tu habites en moi. Je veux être ton tabernacle, je veux être ton temple. Et de même que lorsqu'on avait dressé le tabernacle, lorsqu'on avait fini, Seigneur, de consacrer le temple, ta gloire s'est manifestée, ta présence était là. Je ne veux pas seulement que de temps en temps, mais je veux que cette présence soit continuellement en moi. Et ça fait la différence. Ça fait la différence dans le ministère. Ça fait la différence dans la famille. Ça fait la différence dans les relations. Dans notre existence. Parce que Dieu est là. Jésus est là. Et puisque nous avons accepté d'être brisés, il se sert de nous. Il nous utilise pour faire avancer son royaume. C'est vrai qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, on peut servir Dieu même étant charnellement, mais on voit les conséquences. L'homme, c'est un génie. L'homme a beaucoup de capacités. Et avec l'ère de l'intelligence artificielle, on n'aura plus besoin de passer du temps pour préparer les sermons. Vous posez la question à chatbot LVT, elle vous sort votre prédication et vous mettez à la chair, vous donnez. Ça va arriver. Mais est-ce que c'est ça ce que Dieu veut? Alors Dieu cherche des hommes et des femmes qui comprennent, qui veulent vraiment vivre en eux, qui acceptent de passer du temps avec lui, qui acceptent de monter volontairement sur l'autel du brisement. Et qui dit, Seigneur, brise ma volonté, brise ma pensée, brise mon cœur, brise mon esprit. Je veux être l'homme ou la femme que tu utilises. Je veux te révéler, je veux faire avancer ton royaume. Que le Seigneur puisse nous aider et que nos cris de cœur parviennent à lui. Que Dieu vous bénisse.